Musique en ligne avec l'orchestre Dijon-Bourgogne pour un concert enregistré à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Concert à voir sur Internet, sur les sites de l'orchestre à partir du lundi 14 décembre. Puis à la télévision en seconde partie de soirée sur France 3 Région, ce sera le 21 décembre. À la tête de l'orchestre, ce sera vous, Mathieu Herzog, avec un programme intitulé « Humanisme au pluriel d'Orient et d'Occident ».
Alors, je suis pas sûr d'être la personne la plus à même de vous répondre, car c'est plutôt le service communication de l'orchestre qui a choisi ce titre, même si je le comprends. C'est-à-dire que il y a dans ce concert donc deux œuvres de Ludwig van Beethoven, principalement la cinquième symphonie, qui outre ce thème célèbre du premier mouvement que tout le monde connaît, représente sans doute la première œuvre politique. Jamais écrite en musique dite classique, et représentait pour Beethoven quelque chose d'extrêmement puissant, de profond et d'important, puisque c'était dans cette période napoléonienne où il a écrit aussi la troisième symphonie et d'autres, où il y avait une admiration sans bornes pour l'empereur. Enfin, celui qui n'est pas encore l'empereur à l'époque, et justement ça a déçu Beethoven comme beaucoup. Mais voilà, donc il y a un geste politique, donc, et il y a dans cette symphonie, si vous voulez, entre le premier mouvement et le quatrième mouvement, c'est une symphonie en quatre mouvements, il y a vraiment quelque chose qui va de l'ombre à la lumière et qui ouvre sur une idée d'humanité dans le final et donc d'humanisme sans doute. Et quant au concerto de Fasilse, c'est une œuvre qu'il a écrite dans lequel il y a une sorte de si vous voulez de sous-titre en fait contre le terrorisme, contre l'oppression en général, et pour compléter le programme vous avez une dernière œuvre de Arvo Pärt qui lui l'a intitulée tout simplement Orient et Occident, et qui est un peu le dialogue entre deux orchestres qui viendraient chacun d'un côté de la planète.
Je reviens vers Beethoven tout de même. Lorsqu'on doit interpréter la cinquième, alors comme vous l'avez dit, connue, enfin tout le monde connaît, je me méfie toujours de cette expression-là, mais quand même là, on peut le dire, au moins pour le début. Quand on prend la direction d'un orchestre, est-ce qu'on n'est pas un petit peu tenu par des versions d'illustres qui vous ont précédé et qui ont souvent enregistré cette symphonie-là, comme d'autres grands monuments du répertoire ?
C'est une question extrêmement intéressante et complexe. Oui, forcément, on est sur les œuvres, les grandes œuvres du répertoire, on a forcément entendu beaucoup de versions, certaines nous ont marquées, d'autres moins. Pour ma part, j'arrive avec une version que je pense assez personnelle, sans être originale, mais assez personnelle, et elle est sans doute le fruit de beaucoup d'autres versions, mais elle est également d'abord le fruit de mon travail dans la partition, puisque c'est le travail du chef d'orchestre, c'est se plonger dans les notes et les indications que le compositeur a pu nous laisser, et essayer de comprendre le message qu'il a voulu nous laisser. Il se trouve que moi, je suis très très proche du texte de Beethoven, même dans mes choix de tempo, j'essaie de prendre presque exactement les indications de métronome qu'il a pu nous laisser, qui sont postérieures à la première exécution, mais qui sont très intéressantes. Il y a des choses comme ça, et c'est vrai que après, clairement, l'orchestre arrive avec quelque chose. C'est-à-dire que l'orchestre de Dijon ne jouera pas comme l'orchestre de Nice ou de Tokyo.
Alors, s'il fallait ponctuer ou illustrer, comme on fait parfois sur les vraies radios, Mathieu Herzog, on irait chercher des vieilles versions de Furtwängler ou plutôt, je sais pas, moi, je suis tombé en préparant cette conversation, par exemple, sur une version très leste dirigée par le non moins leste Carlos Kleiber.
Je n'oserais pas vraiment m'aventurer. Les deux versions que vous citez sont des versions que je connais. Il y a des versions aussi encore plus modernes qui sont intéressantes. Je pense à Simon Rattle avec Vienne, qui est une version très intéressante. Il y a quand même Harnoncourt aussi, qui a ouvert une autre voie. Il y a David Zinman avec l'orchestre de la Tonhalle de Zurich également. Tout de même Karajan. Et j'avoue que, pour le coup, je me sens très proche de tout ça, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est intéressant que vous parliez, parce que Furtwängler, par exemple, c'est une version très ancien temps, j'ai envie de dire. Pas péjoratif de ma part, mais disons que c'est comme ça qu'on jouait à l'époque, peut-être plus lent, plus dans le grandiose du son et pas forcément dans le dynamisme qu'on peut essayer d'influer, alors que Kleiber, comme vous le dites, a été une version qui était tout à fait révolutionnaire pour son époque. Je dois dire que moi, je me situerais quand même plutôt du côté de Kleiber.
Commencer par la fin du concert, par la deuxième partie. On a beaucoup parlé de Beethoven, mais il faut parler du début tout de même de ce concerto pour violoncelle et orchestre de Fazilsé. Et évidemment, on va parler de la soliste, alors que vous connaissez bien. Par contre, si c'est une première rencontre avec l'orchestre Dijon-Bourgogne, ça n'est pas le cas avec Camille Thomas.
Non, en effet, Camille et moi sommes amis de longue date, très proches. Il y a quelques années, j'ai entendu une vidéo d'un trio où il y avait une jeune violoncelliste qui jouait. J'ai trouvé que c'était absolument exceptionnel et donc j'ai trouvé un moyen de lui écrire et de lui témoigner mon admiration pour ce qu'elle faisait. À l'époque, elle était très jeune. J'avais un tout petit peu plus d'expérience musicale puisque je faisais partie du quatuor à cordes ébène, le quatuor ébène pendant 15 ans. Et j'ai écrit à Camille, nous avons échangé et nous sommes devenus très très proches. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. C'est une artiste profonde, rare et qui a quelque chose que peu de gens ont, c'est-à-dire qu'elle cherche, elle est constamment en train de chercher à améliorer et à transmettre de l'émotion aux gens qui l'écoutent, et ça c'est quand même très rare.
Et elle est supposée bien connaître le concerto Never Give Up pour orchestre et enfin violoncelle et orchestre de Fazilsé.
Ah oui, bien sûr, parce qu'elle l'a créé. C'est un concerto qu'elle a enregistré, qu'elle joue régulièrement. C'est quelque chose qu'elle a beaucoup beaucoup fait et qu'elle porte avec beaucoup de force et d'envie. Elle aime beaucoup cette œuvre qui je dois dire est une vraie réussite.
Vous serez pour enregistrer sans public, Mathieu Herzog, sauf l'équipe technique. Mais au fond, pour un chef, est-ce que son public à lui n'est pas l'orchestre qui est devant lui dans la mesure où il doit transmettre à l'orchestre et il y a en même temps un peu le spectateur de l'orchestre?
C'est tout à fait juste. C'est une parfaite analyse. Il est vrai que même le positionnement, c'est-à-dire en général, je tourne le dos au public, donc finalement je le ressens moins que l'orchestre qui lui est face publique. Et qu'en général, lorsque je vais diriger un concert normal avec une audience, évidemment, je rentre sur scène. Il y a cette chaleur des applaudissements lorsqu'on rentre, mais ensuite, je suis plutôt concentré sur le fait d'être le récepteur ou l'amplificateur de l'émotion de l'orchestre et d'essayer de leur faire créer. Donc, je pense que c'est pas ce que vous m'avez demandé, mais je vais un peu plus loin. Je pense que c'est moins désagréable pour moi, pardon de le dire comme ça, mais de faire un concert sans public que pour eux.
Mais ne me dites tout de même pas que le ça tourne du début et le coupé de la fin font le même effet que les applaudissements.
Non, bien entendu, non. Non, non, moi, je ne voulais pas dire que ça ne change rien pour moi, public et sans public. C'est juste qu'effectivement, une fois qu'on est tourné vers l'orchestre en tant que chef, on est extrêmement concentré sur eux, puisque notre travail, c'est vraiment de pouvoir utiliser leurs qualités et d'éventuellement transcender leurs qualités. Donc, le public n'a pas de rôle à ce moment-là, mais cependant, il peut en avoir énormément, ne serait-ce que dans ses applaudissements à la fin de la première pièce d'un concert. Et c'est là où j'avoue que l'angoisse arrive. Les fins de morceaux où il n'y a pas le retour public d'applaudissements, ça c'est très difficile.
À suivre donc sur internet à partir du 14 décembre sur le site de l'Orchestre Dijon-Bourgogne, page Facebook et j'en passe. Et puis à suivre surtout le concert retransmis cette fois par France 3 sur l'antenne du programme Bourgogne-Franche-Comté à 22h30. Ce sera le lundi 21 décembre. Et puis bien sûr, alors avec le public cette fois, on vous retrouvera toujours avec Camille Thomas et l'Orchestre Dijon-Bourgogne, Mathieu Herzog. Ce sera fait février au théâtre d'Auxerre.